VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 9 février 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, de nouvelles violences post-électorales signalées hier à Conakry, la capitale.
En République démocratique du Congo, l'UDPS va tenir un congrès fin février pour choisir le successeur de son fondateur, Feu Étienne Tshisekedi.
En Syrie, plus de 200 civils tués dans les bombardements du régime, dans la Ghouta orientale, un fief rebelle.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, de nouvelles violences sont signalées à Conakry, la capitale, avec plusieurs blessés à quelques heures de la publication des résultats des élections locales du 4 février dernier. Le ministre guinéen de la Justice et celui de la Sécurité appellent au calme et promettent de mettre fin aux troubles dans le pays. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante dit n'avoir reçu que quelques procès-verbaux dont elle va proclamer les résultats ce vendredi. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
Il s'agit des résultats partiels issus de 170 procès-verbaux sur les 342 concernés. Cette annonce du président de la CENI est très attendue. Elle arrive dans un climat de violence politique sur fond de contestation des résultats. 12 personnes ont été blessées jeudi dans les heurts entre militants de bords politiques opposés autour du domicile du chef de file de l'opposition guinéenne. Une violence de plus, mais une violence de trop s'inquiète plusieurs organisations de la société civile guinéenne. En visite à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a exhorté les leaders des partis politiques et leurs sympathisants à privilégier la manière pacifique et les voies légales pour résoudre tout différend lié au processus électoral. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son homologue de la Justice ont averti contre de nouvelles violences. Le premier a promis de protéger les populations. Tout auteur de violence post-électorale sera traduit devant la loi, menace à son tour le garde des Sceaux. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Au Togo, remise en liberté sous contrôle judiciaire hier, des 10 étudiants interpellés mardi à Lomé quand ils se rendaient sur le campus de l'université de Lomé pour une assemblée générale. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès des autorités universitaires. Parmi ces étudiants figure Foli Sachivi, le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Il avait déjà été arrêté en juin 2017 et condamné à 12 mois de prison avec sursis à la suite de manifestations sur le campus de l'université de Lomé.
En République démocratique du Congo, l'UDPS, parti historique de l'opposition, annonce la tenue d'un congrès fin février pour désigner le remplaçant de Feu Étienne Tshisekedi à sa tête. Le point avec Eddie Isango.
Le congrès aura lieu les 26 et 27 février au siège du parti dans la commune de Lumété à Kinshasa. Il permettra de désigner les successeurs de Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Félix Tshisekedi, fils du défunt leader opposant, est le candidat le plus en vue. S'il est retenu comme président de l'UDPS, il sera candidat à la présidentielle pour le parti, a annoncé son porte-parole et secrétaire national, Abraham Luakabwanga. Les candidats de l'UDPS devront se concerter avec les rassemblements de l'opposition, plateforme dont il fait partie. Car d'autres candidatures de la même coalition ont déjà été annoncées, parmi lesquelles celle de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et du député Martin Fayulu. En décembre, le Premier ministre Bruno Tshibala a été désigné président d'une autre branche de l'UDPS. La querelle sur l'héritage politique d'Étienne Tshisekedi continue à faire rage alors que le corps de l'opposant n'a toujours pas été ramené en RDC, faute d'accord entre les autorités, la famille et l'UDPS. Pour Bruno Tshibala, le rapatriement de la dépouille n'est plus qu'une question de temps.
Au Nigeria, deux membres du gouvernement sont passés devant une cour de justice hier pour fraude après la découverte à leur domicile de 86 voitures de luxe, dont 23 véhicules blindés. L'un des deux prévenus est membre du comité présidentiel pour la gestion de la crise dans le nord-est du pays, région dévastée par l'insurrection djihadiste Boko Haram.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, la fermeture partielle des services fédéraux américains est entrée en vigueur vendredi à 0h, après la suspension des débats sur un accord budgétaire crucial au Sénat jeudi soir. Face à l'opposition d'un sénateur à cette proposition de loi qui permet un financement de l'État jusqu'en 2019, la Chambre haute du Congrès a décidé de suspendre la séance et de procéder à un vote à partir d'une heure locale, soit 6h temps universel, en vue d'un nouveau vote. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Oui, le délai pour éviter le shutdown, c'était minuit. Les sénateurs travaillaient au pas de charge, mais c'était sans compter avec le sénateur libertarien Rand Paul qui a choisi de retarder le vote en s'exprimant longuement contre cet accord qui abroge jusqu'en 2019 le principe d'un plafond de la dette américaine. À ce stade, la paralysie de l'État fédéral est consommée pour la seconde fois en 3 semaines, faute d'un accord au Congrès sur le budget. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et son homologue démocrate Chuck Schumer avaient pourtant trouvé mercredi un terrain d'entente sur les montants des budgets 2018 et 2019 permettant au gouvernement de planifier à long terme ses dépenses et investissements. L'accord offre à M. Trump la possibilité de tenir une des promesses de campagne, le gonflement du budget militaire en augmentant le plafond de la dette jusqu'en mars 2019. L'opposition démocrate a de son côté obtenu une augmentation comparable pour des portefeuilles non militaires. C'est sur ce projet de loi que les sénateurs devraient voter à partir de 6h GMT.
En Syrie, les bombardements du régime ont tué plus de 200 civils en 4 jours dans le fief rebelle de la Ghouta orientale. La coalition internationale menée par Washington dit pour sa part avoir tué au moins 100 combattants pro-régime dans l'est du pays. L'ONU demande une trêve humanitaire. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier pour discuter d'une trêve humanitaire d'un mois réclamée par les agences onusiennes. Celle-ci estime à 13 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Washington dit soutenir cet appel de l'ONU et a fait savoir que les attaques contre les civils, je cite, « doivent cesser immédiatement ». D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 211 civils ont été tués par les frappes du régime syrien depuis lundi. Il s'agit des 4 pires journées qu'a connues la Ghouta orientale depuis le début de la guerre en 2011, a déclaré Hamza, un médecin qui traite des blessés. De son côté, le régime syrien a qualifié les frappes de la coalition internationale de crimes de guerre. Ces combats ont lieu sur fond de tensions entre le régime syrien et les États-Unis. Washington accuse Damas de recourir aux armes chimiques. La Turquie a annoncé qu'elle accueillera prochainement un sommet avec la Russie et l'Iran, alliés du régime syrien.
Ajoutons que le secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, a précisé hier que les États-Unis n'essaient pas de s'impliquer dans la guerre civile qui dure depuis des années. Il parlait après que les frappes aériennes de la coalition ont coûté la vie à quelques 100 éléments des forces pro-gouvernementales qui avaient attaqué ses alliés dans le combat anti-djihadiste, ceux des forces démocratiques syriennes. Pour M. Mattis, il s'agissait uniquement d'un cas de légitime défense.
Human Rights Watch a accusé aujourd'hui les forces de sécurité kurdes irakiennes d'avoir commis entre le 28 août et le 3 septembre un crime de guerre en procédant à des exécutions massives de présumés membres du groupe État islamique qu'elles détenaient. L'ONG fonde ses allégations, notamment sur le témoignage d'un ancien membre des forces de sécurité et de 6 habitants. Elle a demandé aux autorités irakiennes et kurdes d'ouvrir une enquête et de poursuivre les auteurs présumés. Les Peshmerga, de leur côté, démentent.
Des heurts ont opposé hier soir des manifestants du groupuscule d'extrême droite Forza Nuova aux forces de l'ordre à Macerata, dans le centre de l'Italie, théâtre samedi d'une fusillade à caractère raciste. Le mot d'ordre de cette manifestation était « On meurt d'immigration », en référence au meurtre dans cette ville d'une jeune Italienne de 18 ans pour lequel un Nigérian a été arrêté. Samedi, un sympathisant d'extrême droite de 28 ans avait tiré sur une dizaine d'Africains dans une tentative de venger, dit-il, la mort de cette jeune fille.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho Eric Manirakiza.
L'Afrique a augmenté ses investissements de plus de 50 millions de dollars dans le transport en 2017. Ce résultat est lié à la forte volonté des pays africains de promouvoir le commerce intérieur. Le COMESA s'est illustré dans cette dynamique, surtout l'Éthiopie, Djibouti et le Kenya, réputés être les moteurs dans la région. Les pays africains sont les premiers bailleurs et ont financé 82 projets devant la Chine qui a appuyé 47. La CAC veut se réformer au niveau institutionnel. Cette communauté doit revoir le règlement financier, le statut du personnel, du secrétariat général, le règlement intérieur du secrétariat général et les manuels de procédure. La firme française Sofreco accomplira cette tâche pour 511 millions de francs CFA. Il reste au comité de pilotage de négocier le contrat de prestation de services et la tenue d'un calendrier de la feuille de route. La CAC regroupe 11 États. La baisse des impôts aux États-Unis pourrait favoriser une hausse des rentrées au Kenya. Ceci concerne les fonds que les Kenyans de la diaspora transfèrent vers leur pays. D'après le régulateur kenyan des marchés financiers, les Kenyans vivant aux États-Unis ont envoyé 90 milliards de shillings, près de 56% des 177 milliards de shillings. Le total des rentrées de fonds au Kenya en 2017 provenait de l'Amérique du Nord. La stabilité de la monnaie nationale devrait connaître une embellie stimulée par la hausse des rentrées de devises.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début des Jeux Olympiques d'hiver, aujourd'hui à Pyeongchang, et l'Afrique est présente en Corée du Sud.
Tout à fait Idrissa, au total 8 pays africains prendront part à ces 23e Jeux Olympiques d'hiver, une participation africaine inédite dans l'histoire de ces Jeux. Tout commence aujourd'hui avec les débuts remarqués de l'Érythrée et du Nigeria, qui seront aux côtés du Kenya, du Maroc, du Ghana, de Madagascar, de l'Afrique du Sud et du Togo. Et tenez-vous bien Idrissa, à Kwasi Frimpong deviendra le premier gagnant à participer au skeleton, tandis que Sabrina Simader et Mialitia Naclerc deviendront les premières femmes à représenter respectivement le Kenya et Madagascar.
Le Maroc place 5 joueurs dans l'équipe type du CHAN 2018.
Sans surprise, Idrissa, l'épine dorsale des Lions de l'Atlas qui ont infligé un 4-0 au Nigeria, on se rappelle encore en finale, est bien présente avec le défenseur et capitaine Badr Benoun, les milieux de terrain Salahedin Saidi Walid El Karti, Zakaria Hadid et l'incontournable Ayoub El Kabi, meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. Les Super Eagles alignent 2 joueurs, Stéphane Eze et Solomon Ojo, tout comme le Soudan et la Libye.
En Coupe de la CAF, Elwa United a déclaré forfait et du coup le Djoliba AC est déjà qualifié.
Le club malien devrait s'expliquer avec Elwa United du Libéria pour le compte du tour préliminaire aller de la Coupe CAF, mais cette rencontre n'aura finalement pas lieu, le club libérien a déclaré forfait. Conséquence, les Maliens du Djoliba AC sont qualifiés pour les 16e de finale.
En Europe, Henry Onyekuru, élu espoir de l'année en Belgique.
Oui, Idrissa, l'attaquant nigérien a remporté le prix du meilleur espoir de l'année au gala du soulier d'or du championnat belge 2016-2017. Auteur de 22 buts sur l'année civile, Henry Onyekuru a devancé le Burkinabé Hassan Bandé du FC Malines et Landry Dimata de l'ex-Ostende. Le Nigérien s'est révélé sous les couleurs de Pen avant de confirmer avec Anderlecht. Actuellement, il appartient au club anglais d'Everton.
Naby Keita, accusé de ne pas se donner à fond.
C'est ce qu'a déclaré Ralph Hasenhüttl, l'entraîneur de l'international guinéen. Recruté depuis quelques mois par Liverpool, Naby Keita rejoindra le club anglais à la fin de la saison en cours contre 52 millions d'euros. Étincelant la saison dernière avec Leipzig, le milieu de terrain guinéen est accusé par son entraîneur de ne pas se donner à fond cette saison. Ralph Hasenhüttl dit souhaiter que son attaquant revienne aux fondamentaux. NBA, pour terminer avec vous Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Orlando bat Atlanta 100-98, victoire de Toronto sur New York 113-88, Boston et Washington 110-104.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les relations diplomatiques restent tendues entre la République démocratique du Congo et la Belgique après la décision de Bruxelles de suspendre unilatéralement la coopération entre les deux pays. Kinshasa a riposté en fermant notamment la maison Schengen dans la capitale congolaise et en réduisant le nombre de fréquences allouées à Brussels Airlines. Mais cette décision, bien que pleinement assumée par le gouvernement congolais, ne fait pas que des heureux dans la population, nous dit dans ce reportage Thierry Kambouni de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons pris cette décision par rapport au comportement de nos amis belges qui ne comprennent pas que la RDC est un pays souverain. Et si d'aventure nos amis continuent, je crois qu'on va passer à la vitesse supérieure. Nous sommes membres de la communauté internationale comme la Belgique. Donc il faut que ça soit une politique gagnant-gagnant. Pour l'instant, je ne vois pas ce que la RDC peut perdre, mais nous voulons une politique de respect et de considération.
C'est en ces termes prononcés par Freddy Kitty, le vice-ministre à la coopération internationale et sur un ton ferme que le gouvernement de la République démocratique du Congo a justifié ses dernières décisions dans le conflit l'opposant à la Belgique. Kinshasa dit n'avoir appliqué que le principe de réciprocité dans l'exploitation des services aériens internationaux entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Fermeture de la maison Schengen à Kinshasa, réduction de 7 à 4 du nombre de fréquences hebdomadaires allouées à la compagnie aérienne Brussels Airlines. Le gouvernement congolais assume pleinement ces nouvelles mesures contre Bruxelles.
Vous savez que l'espace Schengen a été créé, je crois, en 1999. La maison Schengen ici à Kinshasa, qui est l'unique d'ailleurs en Afrique centrale, a été créée en octobre 2010. Avant la création de la maison Schengen, les Congolais partaient dans les ambassades pour faire leur demande de visa. Je crois que c'est la politique qui va répondre. Les visas continueront à être délivrés, mais cette fois-ci dans les ambassades.
Cependant, la décision de Kinshasa qui reproche à Bruxelles d'avoir rompu unilatéralement la coopération Belgique-République démocratique du Congo n'est pas du goût de tout le monde. Surtout pas de ceux que nous avons croisés devant la maison Schengen et dont les dossiers étaient en cours de traitement.
On avait introduit un dossier pour participer à une conférence à Rome. Je suis conférencier international et ambassadeur universel de la paix. Et là, j'étais venu pour récupérer le passeport pour le reste de la délégation qui n'avait pas fait les déplacements pour Rome pour participer à cette conférence. Soudain, nous avons vu une information qu'ils vont nous contacter d'ici les 31 janvier, mais nous sommes au mois de février, nous n'avons pas toujours de suite. Si il faudrait que nous puissions traverser au Congo-Brazzaville pour solliciter un visa, c'est encore plus de dépenses. Vous voyez que nous, les Congolais aussi, nous sommes très pénalisés par cette mesure.
Déçu et dérangé également, M. Mike Kazadi, propriétaire d'une agence de voyage qui collaborait étroitement avec la maison Schengen. Son business en a pris un sérieux coup.
Vu que la maison Schengen est fermée et que nous, nous travaillons qu'avec la maison Schengen, nous sommes aussi préjudiciés. Il n'y a pas d'activité, nous sommes bloqués tout en attendant que la situation s'améliore. Ma proposition est que notre gouvernement puisse voir comment ils peuvent négocier avec les autres. On est préjudiciés. Notre service consulaire est fermé en Anvers. Si cela continue ainsi, nous serons maintenant obligés de fermer partout parce que la maison Schengen renferme, regorge en soi 19 pays. Ils sont solidaires.
Ce débat sur la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Bruxelles s'est invité également dans de nombreux salons politiques. En vacances parlementaires, certains députés interrogés par votre radio ont promis de traiter en priorité cette affaire à la session de mars prochain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Burkina Faso, tension hier à Karangasso-Vigué, en village de l'Ouest, entre des dozos, chasseurs traditionnels originaires de cette partie du pays, et des Kogleuego, groupe d'autodéfense venu du nord. Depuis le début de la semaine, les dozos ont intimé l'ordre aux Kogleuego de quitter l'ouest du pays où ils sont interdits par un décret gouvernemental. Bagassi Koura a joint à Bobo Dioulasso, Alidou Ouedraogo, un reporter de Radio Omega qui était hier à Karangasso-Vigué.
Vous savez, c'est jeudi qu'a expiré l'ultimatum des dozos, un groupe d'autodéfense dans le Grand Ouest. Ce sont des chasseurs qui assurent la sécurité dans le Grand Ouest. Ce sont les gardes traditionnels, la sécurité traditionnelle. Donc, ils avaient donné un ultimatum aux Kogleuego, qui sont aussi un groupe d'autodéfense privé. Il y a de cela quelques deux ans dans cette localité. Donc, les dozos leur avaient sommé de quitter la zone de Karangasso au Bidou, où ces Kogleuego-là se listent impose des amendes aux prisonniers voleurs qu'ils arrêtent. Donc, pour éviter l'irréparable, le haut commissaire de la province du Koué, qui a convoqué une rencontre d'apaisement qui a regroupé ces dozos, les chefs étudiants et les personnes ressources de la localité. Dans une tension hautement perceptible, le haut commissaire Lamy Soulama a réaffirmé l'interdiction des Kogleuego conformément à l'arrêté ministériel du 10 janvier 2017.
Pourquoi est-ce qu'il y a cette tension entre les deux groupes d'autodéfense? Est-ce que c'est simplement une question de rivalité ou c'est parce que les Kogleuego ne sont pas acceptés dans cette partie du pays?
Disons d'abord que les Kogleuego ne sont pas acceptés dans cette partie du pays parce que les deux autres se sont acceptés. Ils ne peuvent pas avoir deux groupes d'autodéfense dans une même région. Puis le groupe d'autodéfense traditionnel de la région de Haut-Bassin-Saint-Pierre, vous savez, qui sont les gardes mêmes, qui constituent la sécurité chef traditionnel de cette zone. Et puis la manière de faire, la manière d'outrepasser la loi, les Kogleuego ne plaisaient pas forcément aux dozos, par exemple, les Kogleuego qui se mettent à imposer des amendes ou à torturer les voleurs. Ils avaient outrepassé leurs attributions selon les dozos qui, quand ils prennent un voleur, prennent soin de le remettre aux autorités compétentes, c'est-à-dire soit à la police ou à la gendarmerie.
Est-ce qu'on sait si les Kogleuego ont réagi jusque-là?
Les Kogleuego n'ont pas réagi puisqu'ils n'étaient pas à la rencontre. Le haut commissaire Lamine Soulama a répondu que les gens qui n'étaient pas reconnus par la loi et par conséquent, ils ne pouvaient pas discuter avec les gens qui ne sont pas reconnus par la loi.
C'était notre confrère de Radio Omega au Burkina, Alidou Ouedraogo.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La fièvre de Lassa sévit au Nigeria. Face à cette menace, les pays voisins prennent des mesures pour éviter une épidémie à grande échelle. Joint par Nastasia Peteuil, Sylvain Baize, spécialiste dans les infections virales émergentes à l'Institut Pasteur de Paris, fait le point.
En fait, la situation de la fièvre de Lassa en Afrique de l'Ouest est endémique, c'est-à-dire qu'on a en permanence des cas avec des épidémies régulièrement au Nigeria, au Sierra Leone, au Libéria, parfois en Guinée. Puis entre les deux, les pays comme le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire ou le Mali, eh bien on observe des cas sporadiques et des mini-épidémies, enfin des petites épidémies comme par exemple le Bénin.
Alors quels sont les symptômes pour la fièvre de Lassa?
La maladie va débuter par un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire des signes peu spécifiques avec des céphalées, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la fièvre, une fatigue extrême qui rend compliqué le diagnostic. Ça ressemble beaucoup au paludisme, aux maladies beaucoup plus fréquemment rencontrées dans ces pays-là. Et ensuite, le tableau clinique va s'aggraver avec apparition de signes hémorragiques, des œdèmes, et le patient va décéder dans un contexte de défaillance multiviscérale.
Et quelle est la différence entre la fièvre Lassa et Ebola?
La différence tient surtout à la gravité de la maladie, c'est-à-dire que Lassa tue moins qu'Ebola, mais sinon c'est le même syndrome, c'est-à-dire la fièvre hémorragique virale, avec les mêmes symptômes qui sont observés, mais la mortalité de Lassa est plus faible, c'est-à-dire que Lassa tue entre 10 et 30% des patients, alors qu'Ebola, on a une mortalité qui peut aller jusqu'à 80-90%.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment on se protège du virus?
Le virus est hébergé dans la nature au sein d'un rongeur, et malheureusement, ce rongeur vit très proche des hommes, puisque c'est un rongeur qui vit dans les cases, et donc les contacts avec l'homme sont très fréquents, puisque ce rongeur va aller poser ses déjections très près des habitations, voire même sur la nourriture qui est stocké dans ces cases. Pour éviter la contamination, mais il faut tout simplement éviter les contacts avec ce rongeur.
Dans certains pays, la maladie est endémique, dans d'autres, sporadique. Pourquoi cette différence?
Ça tient en fait à la présence du réservoir à côté de l'homme dans les villages, au pourcentage d'infection de ce réservoir par le virus Lassa. C'est une question de réservoir et d'intensité d'infection du réservoir. Maintenant, dans le détail, pourquoi il n'y en a pas encore beaucoup dans les pays qui sont entre les pays endémiques, là, pour le coup, je n'ai pas la réponse.
Et donc, c'est pour ça que c'est difficile d'éradiquer cette maladie qui a été découverte maintenant il y a 50 ans.
On ne peut évidemment pas éradiquer la maladie puisque le virus circulera toujours parmi les populations de rongeurs. La seule façon, finalement, d'éradiquer cette maladie, ce serait de vacciner la population qui vit à proximité de ces rongeurs et qui donc est à risque pour la fièvre de Lassa. C'est-à-dire qu'il faudrait vacciner les populations d'Afrique de l'Ouest contre ce virus.
Vaccin qui n'existe pas pour l'instant. C'était Sylvain Baize, spécialiste des infections virales émergentes à l'Institut Pasteur de Paris.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Aux États-Unis, le président Donald Trump veut une parade militaire pour la fête nationale américaine, comme celle qu'il a vue sur les Champs-Élysées pendant la fête nationale française. Précision de Lionel Gahima.
Le Pentagone est déjà à pied d'œuvre pour un défilé militaire le 4 juillet à Washington, a fait savoir James Mattis, le secrétaire à la Défense.
Nous sommes en train de mettre ensemble quelques options et nous allons les envoyer à la Maison-Blanche pour une décision.
Tenter de comprendre d'où vient cette soudaine envie présidentielle n'est pas chose évidente. Pour le patron du Pentagone, c'est simplement l'amour du président pour les troupes.
Le président respecte
Président, sa passion pour l'armée, je crois, peuvent expliquer sa volonté.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Le général à la retraite, Paul Eaton, n'y perçoit que du narcissisme.
Ça n'a rien à voir avec les troupes. C'est pour satisfaire l'ego du chef suprême de notre armée.
Le président Trump a souvent dit qu'il voulait une meilleure parade militaire que celle qu'il a vue le 14 juillet dernier à Paris. Les défilés militaires grandiose sont très rares aux États-Unis. Le plus récent remonte aux années 90, lorsque les troupes américaines célébraient leur victoire dans la première guerre du Golfe. Les détracteurs disent que les parades militaires sont souvent associées aux dictatures. Exemple, la Corée du Nord avec ses missiles, les célébrations de Moscou ou le grand défilé militaire à Pékin pendant la visite de Donald Trump en Chine. Pour le général Eaton, l'armée a des choses plus importantes à faire.
Avec la guerre en cours en Afghanistan, l'Irak où nous sommes présents et peut-être des préparatifs pour faire face à la Corée du Nord, les troupes n'ont simplement pas le temps. C'est tout juste une colossale et mauvaise idée.
Avec le budget du Pentagone tout juste approuvé par le Sénat, trouver l'argent pour une parade militaire coûteuse peut être compliqué. Mais le commandant en chef de l'armée américaine est connu pour ne jamais reculer.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'épilepsie, une affection du cerveau qui provoque des tremblements involontaires d'une partie ou de tout le corps de la victime.
L'épilepsie touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Pourtant, elle reste mal connue et parfois assimilée à de la sorcellerie.
Pour en parler, nous recevons le professeur Amadou Diop, neurologue à Dakar, au Sénégal. Il nous dira ce qu'il faut faire quand surviennent les crises d'épilepsie.
Nous écouterons également le témoignage de Marie-Angèle Abanga, directrice d'une fondation qui lutte contre l'épilepsie au Cameroun.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
VOA Afrique. Afrique, en direct de Washington, Le Monde aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Ariel Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.